Merci à vous, merci aux organisateurs de ce colloque et merci de me donner la possibilité de présenter ce projet d'observatoire participatif des transitions socio-écologiques. Donc, je vais partir de la zone atelier brest-iroise, mais c'est un projet qui se co-construit avec la zone atelier armorique parce qu'on va travailler tout au long du continuum terre-mer. Donc, avec Christophe Piscard d'Ecobio à Rennes 1 et Gérard Gruau de Géosciences Rennes. Mais c'est aussi un projet qui se construit avec différents partenaires. Vous avez ici mentionné Dominique Cottreau, qui est la coordinatrice du REB. Donc le REB, c'est le réseau pour l'éducation et l'environnement en Bretagne, qui a une centaine d'adhérents. François Guerrier, qui est dans l'animation pédagogique à Gros Campus Ouest et qui travaille beaucoup avec les lycées agricoles. Vous verrez comment ils sont impliqués dans ce projet. Et puis avec Marion Diaz, qui est une sociologue rattachée au laboratoire réseau à Rennes 2. Voilà, donc on part de la zone atelier brest-iroise et ben voilà, en fait, c'est un peu comme partout, tous les fleuves mènent à la mer. Donc quand on regarde ce qui se passe et les dégradations environnementales et sociales aussi en mer, c'est difficile de les regarder sans remonter vers les bassins versants et c'est particulièrement le cas en Bretagne. On part de la Zabrie quand même, donc la zone atelier brest-iroise. Vous avez ici son périmètre géographique. Elle comprend la zone du parc marin d'Iroise, donc de l'île de Saint au sud jusqu'à l'île de Ouessant au nord, avec donc les îles et puis les plages. Et puis il y a la rade de Brest avec ses bassins versants et les bassins versants des deux fleuves qui l'alimentent, l'Aulne et les Lormes. Donc on remonte assez haut, hein, jusque vers nos montagnes, les monts d'Arrée. Donc notre zone d'atelier, elle travaille étroitement et en appui sur l'observatoire du domaine côtier au sein de notre institut, avec de nombreuses séries de paramètres aussi bien physico-chimiques que biologiques avec des séries temporelles depuis 20 ou 30 ans maintenant, aussi bien au côté pélagique que benthique. Voilà. Alors, dans notre zone atelier, on a plusieurs thèmes. Là, moi, je vais me concentrer surtout dans ce que je vais vous présenter sur la partie sciences participatives, sur le thème 2 qui s'intéresse au continuum terre-mer, avec une problématique assez clair, en fait, un contraste entre ce qui se passe en baie de Douarnenez avec une prolifération d'algues vertes et des conséquences au niveau de la santé, non seulement des écosystèmes, de la santé humaine, des activités également type tourisme. La baie de Douarnenez est une des 8 baies du plan algues vertes en Bretagne. Et puis, on a la rade de Brest qui commence à être sujette, elle aussi, à des proliférations d'algues vertes, mais surtout depuis une dizaine d'années, elle est la proie de récurrence de plus en plus fréquente de blooms de phytoplancton toxiques, avec des conséquences, là encore, au niveau des chaînes trophiques et sur les activités humaines, notamment en termes de pêcherie. Une grosse problématique sur laquelle nos acteurs sur le territoire nous alertent maintenant depuis 2-3 ans, c'est la suivante, en fait, c'est l'inadéquation des indicateurs officiels, type DCE et des CSMM, dans la mesure où ils sont incapables de rendre compte de la complexité de ce système. Vous avez ici, par exemple, représenté le fait que la baie de Douarnenez est considérée en mauvais état écologique, ce qui est conforme au fait qu'on a des proliférations d'algues vertes. Par contre, la rade de Brest, malgré tous les problèmes que je viens de citer juste avant, elle est encore considérée comme en bon état écologique parce que, simplement, les indicateurs ne sont pas adaptés. Et du coup, les financeurs, notamment l'Agence de l'eau, stoppent leur financement pour cette raison-là, parce qu'ils décident de se prioriser sur des zones où, a priori, il y aurait des difficultés plus importantes. Et du coup, un certain nombre des actions qui sont menées, qui sont entreprises depuis 20 ans par les gestionnaires au niveau des SAGE, par exemple, sont en train de s'arrêter avec des conséquences très importantes. Et donc, nous, on est en train, puisqu'on est dans la Zabrie, en pleine phase de prospective pour le renouvellement de notre zone atelier, d'essayer d'élaborer une stratégie pour essayer de répondre à ces enjeux à la fois scientifiques et puis de gestion. Donc, je vous montre ici simplement le triptyque assez classique, hein, où on essaye de combiner des expérimentations, de l'observation à long terme et puis de la modélisation, en l'occurrence de la modélisation intégrée le long du continuum terre-mer. Sauf que, évidemment, pour nous ici, pour chacune de ces composantes de ce triptyque, il y a une contribution importante des acteurs du territoire. Donc, les expérimentations, elles sont, y en a qui sont purement scientifiques, hein, chimiques, biogéochimiques et autres, mais il y a aussi des expérimentations socio-écologiques qui sont en train d'être montées avec des agriculteurs ou avec des conchyliculteurs. On a des observations à long terme, hein, ce qui permet de replacer ces expérimentations socio-écologiques dans des séries, enfin, dans une perspective de, à plus long terme. Avec des observations, donc, je vous l'ai dit, qui se basent sur l'OSU IUM. Donc, il y a des déploiements de capteurs. On a eu un exemple en plénière là, avec le projet Terraforma. Mais on a aussi, et ça nous tient particulièrement à cœur, et c'est sur ça que je vais axer la suite de l'exposé, on a aussi plusieurs projets de sciences participatives qui permettent d'amener une composante humaine très importante et de réfléchir justement aussi à ce couplage entre voilà, les observations où on y garde de l'humain parce qu'il y a une composante pédagogique importante et puis ces déploiements de capteurs. Et puis du coup, ça nous permet de penser un peu les relations homme-machine aussi sur les territoires. Côté modélisation, modélisation intégrée du continuum terre-mer, qui nous permet d'étudier la cascade d'impact à la fois du changement climatique et de changement de pratique tout au long de ce continuum, jusqu'à la zone côtière et à ces questions d'eutrophisation. Donc cette modélisation intégrée, bien sûr, il y a des questions de validation, de calibration à partir des observations qui sont faites. Et puis, il y a là aussi une intervention des acteurs, déjà dans la construction du modèle, dans la co-construction des scénarios qu'on va pouvoir tester. Et puis, on le voit ici, j'ai mis condensé le temps, cette modélisation va nous permettre d'essayer d'anticiper un peu des effets, les impacts des expérimentations socio-écologiques qui vont pouvoir être conduites. Donc l'idée avec tout ça, finalement, c'est d'essayer de co-construire de nouveaux indicateurs en essayant de faire en sorte qu'ils permettent de mieux rendre compte de la complexité de notre écosystème et du des indicateurs qui seront à la fois environnementaux, sociaux et économiques, avec des vraies questions hein, sur à la fois en sciences politiques et puis sûrement en droit, justement sur est-ce qu'on est capable d'avancer finalement plus loin qu'avec des indicateurs officiels et est-ce qu'on est capable de finalement de faire évoluer ces normes avec ces normes-là qui finalement seront mieux et d'autant mieux appropriées par l'ensemble des acteurs qu'ils auront contribué à leur production. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller vers un observatoire des transitions socio-écologiques. Donc nos observatoires, souvent, ils ne sont pas designés pour étudier ces transitions et nous, c'est ce qu'on va essayer de développer. Donc on est sur des projets de sciences participatives. Alors, il y a un projet qui s'appelle Phénomère sur les efflorescences toxiques. On a un autre projet qui s'appelle Objectif Plancton sur la biodiversité phytoplanctonique à la zone côtière. Et moi, je vais partir du projet Ecoflu, qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, permet le suivi de la qualité des eaux douces d'une quinzaine de rivières dans le Finistère. Donc, ces projets de sciences participatives, ils ont bien sûr des objectifs scientifiques, des objectifs de gestion. Ils ont peut-être surtout, j'allais dire, des objectifs pédagogiques sur ce qu'on appelle des territoires apprenants. Et je reviendrai sur cette dimension-là dans ma dernière diapositive. Voilà, donc le projet Ecoflu, vous le voyez ici, il est vraiment à l'interface terre-mer, hein, entre des projets vraiment terrestres. Vous avez quelques exemples de projets qui sont dans Viginature et en bas dans Vigimer. Les trois variables qui étaient suivies depuis 1998, c'était les nitrates, les silicates et les phosphates. Donc ce sont les sels nutritifs. Ils ont été suivis donc, par les mêmes lycées, souvent avec les mêmes équipes pédagogiques depuis une vingtaine d'années, donc très motivés, et ils ont permis d'acquérir une base de données phénoménale parce qu'il y a donc une quinzaine de rivières suivies à l'échelle hebdomadaire donc pour les nitrates, les silicates et les phosphates. Ça a permis de faire, de réaliser, on va le voir dans un instant, une synthèse et puis des comparaisons dans des situations très diverses, que ce soit en termes de surface de bassin versant, d'altitude, de pente, de précipitation, de type de culture, plein de choses. Je ne vais pas pouvoir, moi, là, dans ce que je veux vous dire, rentrer dans le détail des résultats. Je vous donne juste un exemple ici, qui est la variabilité interannuelle des concentrations en nitrate dans nos rivières. Sur la quinzaine de ces rivières, on voit une diminution interannuelle assez net dans certaines rivières. Il faut savoir quand même que chez nous, on est parti d'assez haut. Je ne vais pas plus loin sur cette problématique. Si vous avez des questions, on pourra en reparler. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que, c'est qu'avec de l'observation participative, on peut faire de la bonne science. Il y a toujours, hein, même au sein de la communauté scientifique parfois des réticences sur ces approches. Vous voyez ici une publication qui a été qui est parue en 2018 dans Science of the Total Environment, qui a permis de réaliser une vraie synthèse sur 15 ans de ces données. Et puis, nous, on travaille en mer à notre institut et on n'est pas vraiment des marins d'eau douce. Et du coup, quand il s'est agi d'essayer de comprendre, par exemple, la variabilité saisonnière de l'évolution des concentrations en nutriments dans les différentes rivières, on a eu besoin d'aller chercher nos collègues de l'OSUR et de la zone atelier armorique pour essayer de trouver quelques clés d'interprétation. Et du coup, finalement, sur notre territoire en Bretagne, les sciences participatives nous ont aussi permis de renforcer la recherche collaborative sur le terre-mer entre nos deux instituts et puis nos deux zones ateliers. Donc, on est parti vers cette idée de développer un observatoire participatif des transitions socio-écologiques en se focalisant sur la qualité de l'eau et la biodiversité le long du continuum terre-mer. Donc, on est parti d'écoflux, mais avec l'idée d'étendre le projet. Donc déjà, on va le voir tout à l'heure sur une carte de façon géographique, hein, on va étendre à l'ensemble de la région les sites qu'on va étudier. On a étendu au niveau des partenariats, je vais vous le montrer dans un instant, et puis des paramètres mesurés aussi, au-delà des seuls nutriments, il y a l'idée d'aller sur des paramètres aussi, par exemple dans le particulier, matière en suspension, chlorophylle, et puis un certain nombre d'autres paramètres pour essayer d'étoffer un peu la gamme. Voilà, vous avez ici l'élargissement de ce partenariat. Donc, à l'IUM, on travaille toujours avec les établissements de la filière agricole, des bénévoles et puis des gestionnaires aussi. Sur ce travail avec les lycées agricoles, on est fortement aidé par AgroCampus Ouest et donc François Guerrier, hein, qui travaille sur l'innovation pédagogique et la création de ce qu'ils appellent des situations à haut potentiel d'apprentissage pour les élèves et puis pour tout le monde sur les territoires. Et puis donc je vous l'ai dit au tout début aussi, rentre dans le partenariat ce réseau pour l'éducation à l'environnement en Bretagne qui va être en charge de l'animation sur les territoires et de la mise en lien des différents partenaires. Donc dans la construction pour l'instant, on a ciblé 5 sites pilotes du côté de la Bretagne occidentale en Rade de Brest et en Baie de Concarneau et puis 3 autres sites en Haute-Bretagne. L'idée c'est d'avoir une première année de co-construction, un test de l'approche pendant 2-3 ans sur ces sites pilotes pour un déploiement plus large au-delà de ces 3 ans. Voilà, donc je vous ai parlé de ce rôle structurant d'un tel observatoire, hein, notamment entre nos zones ateliers et puis nos instituts. Ça va également être un bon point d'appui pour ces expérimentations socio-écologiques et puis pour de la structuration et de la visibilité, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne. Voilà, sur les deux dernières diapositives, en fait, moi je voudrais revenir finalement sur les enjeux et pourquoi je pense que c'est hyper important d'aller vers ces questions de sciences participatives et de recherche collaborative. Je pense que c'est quelque chose qui peut être important à rappeler, surtout dans cette journée où de l'autre côté de l'océan, ils sont en train de décompter des votes. Moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord des enjeux scientifiques avec, bien sûr, de la démultiplication des observations, l'idée d'étudier, donc de contribuer à mieux comprendre la cascade d'impact, y compris les rétroactions sur les activités humaines, donc du changement climatique et de ses activités humaines tout au long du continuum terre-mer, et bien sûr la question de calibration, de validation des modèles, et puis de suivi, voire d'anticipation aussi des impacts des expérimentations socio-écologiques. Donc là, on a l'observation participative vraiment comme contributeur décisif à la compréhension des interactions homme-nature le long du continuum terre-mer. Et j'insiste ici parce que c'est un des résultats importants de cette publication que j'ai mentionnée tout à l'heure. Pour la modélisation dans des tout petits systèmes comme ça, côtiers, comme on a chez nous en Bretagne, ce qui est la caractéristique de notre territoire, le fait d'avoir une modélisation avec finalement des données pour la valider avec une échelle spatiale et une couverture temporelle qui sont assez fines, c'est assez fondamental pour ce type d'outils de modélisation. Il y a des enjeux pédagogiques qui sont très importants. Donc, il y a bien sûr l'éducation par l'implication. Il y a l'apprentissage par l'expérience et l'expérience pour John Dewey, sur lequel je reviendrai dans la dernière planche, qui est ce philosophe pragmatiste américain du siècle dernier qui a développé vraiment des approches incroyables entre expérience, démocratie et puis éducation. Pour lui, l'expérience, c'est une vraie expérimentation. éducation à la complexité aussi, éducation à la citoyenneté, et du coup l'observation participative comme situation en haut, potentiel d'apprentissage, parce que moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de transition socio-environnementale sans transition pédagogique également. On a l'observation participative ici également comme contributeur à ce que certains auteurs appellent la société de l'intelligence collective sur ces territoires apprenants où finalement tout le monde, on n'apprend pas seulement sur les gens et puis sur notre environnement, mais on apprend réellement tous les uns des autres. Il y a des objectifs territoriaux, évidemment en termes de restauration de la qualité de l'eau et de la biodiversité, d'adaptation au changement climatique, mais d'un point de vue peut-être un peu plus politique, j'allais dire, la question de la transformation vers la soutenabilité. On a, je vous l'ai dit, en Rade de Brest, un système qui est aujourd'hui réellement insoutenable. Et puis la question du coup du renforcement des capacités, de la capacité d'agir des acteurs. Et dans ce contexte-là, l'observation participative, on la voit comme un moteur du lien social sur les territoires et une réappropriation des enjeux, notamment socio-environnementaux, sur ces territoires par les acteurs. Et à nouveau, pour parler de John Dewey, lui, il voit, et il dénomme ça d'ailleurs un peu, il dénomme ça l'enquête, c'est vraiment un processus d'émancipation pour ces acteurs, de renforcement de leurs capacités, qui va leur permettre de passer de cette première étape qu'est l'adaptation à une vraie transformation vers davantage de soutenabilité sur les territoires. J'ai parlé de transformation, c'est ma dernière planche, ça nous questionne réellement sur notre place de chercheur dans cette transformation. Ça pose la question de l'engagement du scientifique, et ici je me permets juste de vous pointer vers un texte qu'on a produit dans le cadre du collectif Labo 1.5, vous pourrez trouver ça et le télécharger sur le site de ce collectif, sur la responsabilité de l'ESR en ces temps incertains. Cette question de l'hybridation des connaissances, entre les connaissances scientifiques et puis les connaissances de pratique, et puis cette co-construction et ses impacts à la fois sur les apprentissages, sur la sensibilisation, l'appropriation, sur les capacités, le renforcement des pouvoirs d'agir des différents acteurs. Sur les politiques publiques et la réglementation, on l'espère. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui sont actuellement, avec l'évolution de tout ce qu'on voit un petit peu partout sur la planète, qui sont fondamentales parce que ça nous permet de lutter contre un certain nombre de points que je note ici qui me paraissent assez dangereux et sur lesquels je pense que nous, en tant que scientifiques, on doit se positionner. Ça nous permet, le fait d'aborder cette complexité à bras-le-corps, de lutter contre la tentation des explications et des solutions un peu simplistes. Comme ça demande beaucoup de temps, cette question de l'engagement, cette question de la collaboration avec des gens d'autres disciplines, avec des gens d'autres pans des activités humaines, ça nous permet aussi de lutter contre le court-termisme. J'ai noté aussi ici lutter contre la marchandisation. La marchandisation de l'université, elle est décrite par plein d'auteurs aujourd'hui. Et cette construction des connaissances, je pense réellement qu'elle nous permet de produire des connaissances qui finalement sont une vraie valeur sur les territoires. Une valeur, je pense, qu'on ne sait vraiment pas encore bien valoriser ou en tout cas quantifier avec nos indicateurs de richesse actuels. Et je pense réellement que ces approches-là, elles doivent pouvoir contribuer à aller dans ce sens-là. Bon, c'est aussi une lutte contre le tout technologique. J'ai parlé tout à l'heure, ça va nous permettre sur les territoires de repenser les relations homme-machine. Et puis, encore une fois, parce qu'on a besoin d'aller vers l'autre et de sortir de notre zone de confort pour faire tout ça, c'est une lutte très importante contre toute forme de repli sur soi.
Merci.
En vous recitant juste John Dewey, parce que non, je pense que c'est vraiment important, ça, tout ce que je dis là, finalement, c'est pas nouveau. John Dewey, c'était il y a un siècle. Et pour lui, il s'agit vraiment de libérer d'en bas les potentialités créatrices et transformatrices de l'espèce humaine pour stimuler les politiques publiques en matière de protection de l'environnement. Donc, on parle vraiment de renforcement des capacités des acteurs. Je vous remercie pour votre attention.